Entendre le plus récent extrait du duo Milk and Bone avec la pièce Nevermore. C'est un extrait de leur album Deception Bay.
Peut-être que cette chanson va faire partie de la prochaine bande originale du film de Xavier Dolan, parce qu'on sait qu'il fait toujours très attention et prend bien soin de choisir de bonnes chansons pour accompagner ses films. Tout ça pour dire que le prochain film de Xavier Dolan sera québécois. On apprend cela en nouvelles de dernière heure dans la presse, sous la plume de Véronique Lauzon. Après la sortie de son premier long métrage en anglais, The Death and Life of John F. Donovan, Xavier Dolan tournera un film au Québec annoncé The Hollywood Reporter. Le scénario de Matt et Max serait terminé et il s'agirait d'une combinaison entre l'esthétique de Thomas Laferme et l'énergie et l'esprit de Mommy, a dit Dolan au magazine américain. Le réalisateur interprétera Max et il espère qu'Anne Dorval pourra jouer sa mère. Le tournage devrait avoir lieu l'automne prochain au Québec. The Death and Life of John F. Donovan sortira plus tard cette année. Il met en scène Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon, Katie Bates et Jessica Chastain. Thank you. Le cinéaste Michel Hazanavicius, qui a réalisé The Artist, Le Redoutable, et l'écrivain Raphaël Glucksmann ont publié samedi dans les pages du nouveau magazine littéraire dont Glucksmann est le directeur, un manifeste intitulé « Nous aussi, nous voulons l'égalité ». But de la démarche, rejeter en bloc le plaidoyer pour la liberté sexuelle et la liberté d'importuner des hommes, publié il y a 3 semaines par 100 femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve, dans le journal Le Monde. Notre réaction fut d'abord de nous taire et de lire, d'écouter ce qu'elles avaient à nous dire d'elles-mêmes, du monde et de nous, écrivent Glucksmann et Hazanavicius en parlant du mouvement MeToo. Puis la question de nos libertés d'hommes, de séduire, d'importuner, de draguer ou de flirter s'est posée. Et il nous faut donc prendre la parole à notre tour pour dire que nous ne voulons pas de ces libertés si elles s'inscrivent dans des situations et des structures de domination. Et de conclure, nous aussi, nous voulons l'égalité qui seule nous rendra tous et toutes réellement libres. Interviewé hier matin sur la radio Europe 1, les auteurs du texte ont ajouté que le mouvement MeToo était une révolution de société et que le rôle des hommes était de dire « il y a quelque chose d'important qui se passe ». On ne peut pas être contre la vertu. Les quelques féministes françaises interrogées hier par la presse ont semblé saluer, quoique avec un grain de sel, cette louable démarche masculine. Pour la jeune franco-québécoise Rebecca Amselem, auteure du blog « Les Glorieuses », le mouvement « We Too » est important car il démontre à quel point le mouvement féministe en France est un mouvement bénéfique pour les deux sexes. Ce genre de mouvement, précise-t-elle, pourra notamment inciter d'autres hommes à reconnaître qu'ils ont merdé avant qu'ils ne changent leur comportement. Même son cloche chez l'historienne du féminisme Florence Monreno, qui s'apprête à lancer « Le roi des cons » chez Le Robert, un essai sur la dictature du masculin dans la langue française. Pour cette dernière, il est à prévoir que « We Too » et autres initiatives similaires à venir vont faire tache d'encre et forcer les hommes à prendre position. Ça fait 4 mois depuis l'affaire Weinstein. Après l'accueil, l'écoute et la prise de conscience, les temps sont mûrs. Maintenant, les hommes doivent choisir leur camp. Soit ils sont du côté des machos, soit ils sont dans un désir de liberté et d'échange avec les femmes à égalité. Le silence, désormais, c'est se rendre complice, dit Florence Monreno. Petite réserve tout de même chez Véronique Lebris, auteure du livre « 50 femmes de cinéma » à paraître début mars en France. Si la journaliste trouve la démarche de Glucksmann et Hazanavicius formidable, elle s'inquiète toutefois qu'elle ne finisse par prendre le dessus dans le débat, ce qui équivaudrait à un fâcheux pas en arrière. Il faut que ce soit un soutien, pas une récupération de la parole des femmes par des hommes, aussi bienveillant soit-il. Ce serait un comble, prévient-elle. C'est dans le Journal de Montréal, Lulu Hughes relance la machine. Les étoiles semblent enfin alignées pour Lulu Hughes après ce qu'elle décrit comme étant une longue traversée du désert. La chanteuse est survivante d'un cancer et convaincue de pouvoir remettre sa carrière en selle à la suite du lancement d'un vidéoclip reçu avec enthousiasme. Réalisé pour une bouchée de pain au moyen d'un iPhone et d'un drone lors d'un voyage en Irlande et en Écosse en octobre dernier, le clip dont ne sait plus a franchi le cap des 35 000 visionnements sur Facebook durant ses 24 premières heures. Signé Martin Daigneault, les images montrent Lulu Hughes dans des paysages à couper le souffle, parfois situés à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Jointe au téléphone, la principale intéressée s'est dite renversée par l'accueil du public. « J'espérais une telle réaction, mais c'est tellement dur de prévoir les coups maintenant. J'ai fait des clips à 25 000 $ qui n'ont jamais joué. Je suis vraiment, vraiment contente. » Pour Lulu Hughes, le succès du vidéoclip « Dont ne s'aime plus » revêt une signification particulière puisqu'il a été concocté au cours d'un périple dont elle rêvait depuis longtemps. En rémission d'un cancer du sein, la chanteuse désirait faire le point au pays d'où vient son père, l'Irlande, 8 mois après avoir terminé ses traitements de chimiothérapie. « Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je voulais penser à moi », déclare-t-elle. Ce clip vient vraiment donner une voix et une émotion à tout ce que j'ai vécu au cours des dernières années. C'est gris, c'est sombre, mais en même temps, c'est super beau, c'est prometteur et c'est libérateur, tout y est. Sans contrat d'enregistrement, Lulu Hughes espère qu'on ne s'aime plus, provoquera des choses et incitera une maison de disques à produire son prochain album. À tout le moins, elle souhaite vendre assez de chansons sur iTunes pour financer du temps de studio. Jennifer Hudson incarnera la légende du soul et du gospel dans un film biographique encore sans titre à révéler, le producteur Clive Davis. L'annonce a été effectuée avant que Jennifer Hudson ne monte sur scène pour interpréter un medley des plus grands succès d'Aretha Franklin. La chanteuse surnommée Queen of Soul aurait personnellement choisi celle qui jouera son rôle dans le film à venir, a précisé Clive Davis. Oscarisée en 2007 pour sa prestation dans Dreamgirls, Jennifer Hudson a récemment été vue dans le long-métrage Sandy Wexler aux côtés d'Adam Sandler. Malgré la victoire éclatante de Bruno Mars au Grammy et les tours de chant remarqués de Pink, Kesha et Kendrick Lamar au Gala de l'industrie du disque américain, c'est Tire le Coyote qui a le plus bénéficié de la soirée télé de dimanche. Le passage du chanteur québécois à Tout le monde en parle a propulsé son disque Désherbage au sommet du palmarès des ventes d'iTunes Canada hier, toutes catégories confondues. Qui plus est, ces trois albums figuraient dans le top 10 franco d'iTunes hier après-midi, alors que 8 de ses chansons étaient dans le top 30 franco. Pink, Ed Sheeran, Bruno Mars et Chris Stapleton se sont hissés dans le top 10 d'iTunes Canada hier, après leur passage ou leur victoire au Grammy. Et justement, parlant des Grammy Awards, ils ont été boudés par les téléspectateurs. Selon la presse américaine, la fête annuelle de la musique américaine a failli enregistrer les pires cotes d'écoute de son histoire. Seulement 19,8 millions de téléspectateurs se sont branchés sur CBS pour voir Bruno Mars et Kendrick Lamar se partager les grands honneurs. Il s'agit d'une baisse de 24% par rapport au gala de 2017. La pire performance des Grammys remonte à 1975 et 1995, quand 11,25 millions de personnes avaient regardé le gala. Chez les 18-49 ans, la part de marché de 5,9 obtenue est la pire de l'histoire des Grammys chez cette tranche d'âge. L'un des humoristes américains les plus en vue, Kevin Hart, viendra faire rire le Centre Bell le 27 juillet lors de la 36e édition de Just for Laugh. Le comique offrira une seule représentation de son « The Kevin Hart Irresponsible » après s'être arrêté dans 7 autres villes canadiennes, dont Ottawa et Toronto, les 20 et 21 juillet, respectivement. À ses débuts en 2001, Hart avait fait un passage remarqué à Just for Laugh et est revenu au Festival d'humour 6 autres fois depuis. Les billets seront en vente le mercredi 31 janvier à midi.
A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
Autre artiste ayant été primé à la dernière cérémonie des Grammy, Leonard Cohen avec You Want It Darker, première pièce de l'album du même nom qui a remporté Album Rock de l'année.
Super lune bleue de sang. La lune sera à la fois super, bleue et de sang demain dans le ciel de certaines régions du monde, dont l'Ouest canadien. Une telle combinaison de phénomènes ne s'est pas produite depuis 152 ans. Au Québec, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour un grand spectacle, même si des choses intéressantes pourraient être visibles tôt demain matin si la météo collabore. Le point sur ce triple phénomène, c'est un article de Philippe Mercure, il porte bien son nom, dans la presse d'aujourd'hui. Super, c'est d'abord une super lune qui brillera dans le ciel dans la nuit de mardi à mercredi. Ce phénomène est dû au fait que notre lune ne tourne pas sur une orbite circulaire, mais elliptique. Quand la lune est pleine, au moment où elle arrive au périgée de son orbite, donc au point le plus près de la Terre, on parle de super lune. En théorie, elle apparaît alors 14 % plus grosse et 30 % plus brillante. Je n'aime pas beaucoup tout le battage qu'on fait autour de la super lune, dit toutefois. Marc Jobin, astronome au planétarium Rio Tinto Alcan d'Espace pour la vie. Monsieur Jobin explique que l'œil humain est mauvais pour évaluer la taille et la brillance de la Lune et que plusieurs facteurs, dont la hauteur de la Lune dans le ciel, la pollution lumineuse ou la présence de brume ou de nuages, affectent davantage notre perception de la Lune que la distance qui nous en sépare. Bleu. On dit que la Lune est bleue quand elle est pleine pour la deuxième fois dans un même mois. Nul besoin de réviser vos manuels d'astronomie. Il ne s'agit que d'un accident de calendrier, comme le dit l'astronome Marc Jobin. Le cycle de la Lune est d'environ 29,5 jours. Si la pleine Lune survient au tout début du mois, il est donc possible qu'elle revienne à la toute fin du même mois, comme ce sera le cas demain, 31 janvier. Notons que la Lune n'apparaît pas plus bleue qu'à l'habitude. L'origine du mot est débattue, mais elle pourrait provenir des anciens almanachs américains. Les pleines lunes des différents mois y portaient des noms liés aux saisons. Et on aurait surnommé « bleu » ces pleines lunes excédentaires afin d'éviter de décaler les autres noms et s'assurer qu'ils correspondent toujours au bon temps de l'année. 200. Pour l'astronome Marc Jobin, il s'agit du phénomène le plus significatif des trois qui surviendront simultanément demain. Dans certaines régions du monde, dont l'Ouest canadien, une éclipse totale de Lune sera visible, c'est-à-dire que la Terre se placera entre le Soleil et la Lune. En principe, la Terre devrait bloquer toute la lumière du Soleil et la Lune, non éclairée, devrait être invisible. Mais dans ces cas, une partie de la lumière du Soleil passe à travers l'atmosphère de la Terre qui la dévie vers la Lune. L'atmosphère filtre aussi la lumière et en diffuse une partie, dont la lumière bleue, si bien que c'est surtout la lumière rouge qui atteint la Lune. La couleur exacte de la Lune dépend beaucoup de la quantité d'aérosols et de poussière contenue dans l'atmosphère terrestre, explique l'astronome Marc Jobin. Après des éruptions volcaniques majeures, par exemple, l'atmosphère contient beaucoup de poussière en suspension et la Lune apparaît rouge foncé ou gris foncé rougeâtre. Quand il y en a peu, ça donne des éclipses lunaires où la couleur tire plus sur l'orange clair. Et au Québec, d'abord, oubliez la lune de sang. Du Québec, c'est une éclipse partielle qu'on pourra percevoir. Cela veut dire que la lune apparaîtra « grignotée » entre guillemets par l'ombre de la Terre dans sa partie supérieure gauche. Elle ne sera pas rouge comme dans le cas d'une éclipse totale. Le hic, c'est que l'éclipse partielle commencera à 6h47 demain matin, alors que l'aube illuminera déjà le ciel. Le soleil se lèvera à 7h17 à Montréal, ce qui rendra la Lune moins visible. Celle-ci sera aussi très basse dans le ciel à l'ouest-nord-ouest et se couchera dès 7h16. Il faudra donc faire vite et s'assurer d'avoir un horizon dégagé dans cette direction. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, dit Marc Jobin du planétarium Rio Tinto Alcan. Boîte de nuit en apesanteur. Allô la Terre depuis une boîte de nuit. On n'y est pas encore, mais on va s'en approcher début février lorsque des fêtards vont danser pour la première fois en apesanteur grâce à un avion spécialement aménagé. C'est un texte qui a été trouvé dans le Journal de Montréal. L'appareil, un A310 utilisé par les astronautes européens pour s'habituer à l'apesanteur, doit décoller le 7 février de Francfort avec à son bord quelques 20 fêtards de 11 continents, prêts à se trémousser ou plutôt à flotter au rythme choisi par de célèbres DJ. 11 continents, il me semble qu'il n'y en a pas 11, mais enfin, c'est ce qui est écrit. La soirée sera courte. L'appareil doit revenir à l'aéroport de Francfort après 90 minutes de vol, dont seulement 25 minutes en apesanteur totale. Il n'empêche, cela n'avait jamais été fait. En 2013, l'astronaute canadien Chris Hadfield avait bien interprété Space Oddity, la célèbre chanson de David Bowie à bord de la Station spatiale internationale. Mais les incursions de la musique dans l'espace restent rares et c'est la première fois qu'une fête teste les limites de la gravité. Pour la soirée baptisée World Club Dome Zero Gravity, les DJ incluront le Néerlandais Armin van Buuren et Steve Aoki de Los Angeles, un des plus grands producteurs de musique électronique. Les 20 danseurs qui n'auront rien à payer et se verront même offrir l'acheminement jusqu'à Francfort ont été sélectionnés après avoir soumis des vidéos sur les réseaux sociaux. Pour avoir un échantillon aussi représentatif que possible, des candidats de tous les continents ont été retenus. Quelques 55 personnes seront de la partie, y compris l'équipage et les astronautes Jean-François Clairvoye et Pedro Duque. Évaluer le temps d'attente à l'aéroport, une autre nouvelle trouvée dans le Journal de Montréal. L'application TRIPLT vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui offre une estimation du temps d'attente au portique de sécurité et conseille aux passagers les files les plus rapides. 3 heures avant l'heure de départ de leur vol, les personnes qui ont souscrit à TRIPLT Pro, TRIPLT Pro, reçoivent une alerte leur montrant en temps réel les temps d'attente au contrôle de sécurité des terminaux. Les cartes détaillées des aéroports intégrées à l'application permettent de guider les passagers stressés vers l'embarquement ou le restaurant le plus proche. L'application est la dernière application mobile en date à offrir des mises à jour en temps réel des temps d'attente au portique de sûreté MiFlight Fleet. Et Flight Speak propose déjà le même service. La version de base de TRIPLT est gratuite, mais le calcul du temps d'attente dans la zone de contrôle n'est proposé qu'aux personnes ayant souscrit à TRIPLT Pro, qui coûte tout de même 49 $ par année. C'est tout, ici Hélène Denis. On se retrouve tantôt pour les paractualités.